Vanessa Luciano, vous êtes ici?
Oui, bonjour Michel.
Oh, c'est hallucinant. Et encore une fois, vous êtes agréablement accompagné. Hein, Charlie à mes côtés. Ça va, Charlie?
Ouais, très bien. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis bien accompagné, je trouve.
Non, mais là, pour le coup, Charlie, on s'est dit qu'il cherchait, en redémarrant l'antenne, là, on se souvient de sa première émission, c'est vrai, il recherchait trois drôles de dames. Mais dans les artistes ont la parole, ça tombe bien parce qu'on va parler cinéma et puis on va parler de femmes, du cinéma de femmes. On va parler de tout ça. Mais on vous en dit pas plus parce que vous connaissez le rituel. On va peut-être envoyer le générique.
Les artistes ont la parole.
Salut à vous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus, merci d'être ici. Nous sommes partis pour 58 minutes de radio sans pub, s'il vous plaît. On va parler cinéma, on va parler de plein de choses. À mes côtés, Vanessa Luciano sur les starting blocks, Charlie aussi qui est là avec nous depuis quelque temps dans cette émission. Effectivement, je vous le disais, on va parler cinéma avec pour le coup, Charlie, on vous a fait un truc. Nous avons Patricia Barzik avec nous. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Et bienvenue à bord dans cette émission, dans la joie et dans la bonne humeur.
Merci.
Et nous avons aussi une princesse qui est à l'autre bout du monde. C'est toujours comme ça, Charlie, toi, c'est toujours inaccessible. Elle est en duplex de La Réunion. Elle s'appelle Aurélia Mangin. Bonjour Aurélia.
Bonjour, merci de m'accueillir. Et puis, ça me fait tellement plaisir d'être avec Patricia en direct. Donc, c'est que du bonheur.
Voilà, et en plus, que du bonheur. On peut vous voir sur la vidéo des Artistes ont la parole. Pour nous retrouver en vidéo, eh bien, vous allez sur le site internet des Artistes ont la parole, canal vidéo. Et là, vous pouvez nous voir. Voilà, on peut faire des grimaces, on peut faire plein de choses, on peut se lâcher. Et puis, Charlie, il a une jolie casquette. On dirait la casquette de Magnum.
Non, c'est pas celle-là, c'est la mienne, celle-là. Mais on va changer, on va voir.
On va parler de plein de choses dans cette émission, il nous attend plein de rendez-vous. Nous aurons Fabienne Amiec qui viendra en duplex d'un théâtre pour nous parler théâtre. Nous retrouverons Carmela Valente, là c'est un sujet, cette émission va l'intéresser à fond, parce que comme on parle cinéma, et Carmela Valente viendra nous présenter les sorties ciné de la semaine, grand rendez-vous à ne pas manquer, il faut sortir au cinéma, il faut vous bouger, c'est très important. Nous aurons Eric Pless qui viendra nous refaire l'histoire de la télé, la télé-story, et puis Vanessa Luciano, l'incontournable, pour sa superbe chronique qui tourne, c'est vrai, on peut le dire, autour de la 17e lettre et de la 7e lettre de l'alphabet.
Les artistes ont la parole, la minute souvenir.
Et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte triomphe.
Les artistes ont la parole, à l'honneur, Patricia Barzik et Aurélia Mangin pour quelque chose de magnifique, pour la sortie d'un film qui s'appelle Scarlet Blue. Et en préparant cette émission, j'ai eu très peur. Si. Aurélia, j'ai eu très peur. Là, je m'adresse à Aurélia Mangin, qui est la réalisatrice du film. J'ai eu très peur parce que, en fait, ça fait peur les films d'horreur.
Bah, ça dépend lesquels, déjà. Les miens, je crois qu'ils ne font pas forcément peur. C'est plutôt des films qui nous invitent au voyage et à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Je pense que le film, c'est une vraie proposition de sortir de son carcan et d'aller explorer un peu des univers parallèles. Je ne suis pas sûre que je fasse si peur que ça.
et donc, Patricia Barzy, qui joue dans ce film, on rappelle que pour la jeune génération, on va parler d'une histoire que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, dédicace à Charles Aznavour. Patricia Barzy a été quand même Miss France en 1980.
C'est vrai.
Hey, tu es toujours...
C'est vrai, en 1980. J'avais 16 ans à l'époque.
Oh là là, c'est 16 ans. Ah oui.
Oui, 16 ans. J'étais une des plus jeunes Miss France.
C'était avant les débuts de la radio, un peu, Charlie.
Avant la télévision, oui, avant la télévision, mais c'était, j'étais invitée tout de même au journal de Yves Mourousi à l'époque. Enfin, les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais Yves Mourousi, c'était un grand présentateur.
C'était un grand, et il nous manque le Yves Mourousi. Alors, un festival de cinéma de femmes. On veut en savoir plus.
Ben, en fait, c'est un festival, déjà, il faut quand même le recontextualiser parce que c'est le plus ancien. Alors, le vrai nom, c'est le Festival International de Films de Femmes de Créteil, et c'est sa 46e édition, et c'est le plus vieux festival de films de femmes d'Europe. Donc, c'est vraiment très important. Il a été fondé et il est toujours actuellement dirigé par Jackie Buet, qui est, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est vraiment, elle l'a créé il y a 46 ans, et c'est une prouesse parce qu'elle est encore là, et c'est toujours elle la directrice du festival. Mmh. Et moi, j'ai eu la chance d'être invitée deux fois pour mon film précédent dans ce festival pour Fornacis, il y a 5 ans ou 4 ans, voilà, quand le film est sorti il y a 4 ans, et ensuite le film a réété invité il y a 2 ans où elle faisait en fait pour la première fois un spécial, une édition spéciale autour du cinéma de genre féminin. Et donc Jackie Buet considère que en fait je fais partie de ces femmes qui sont un peu des leaders, en tout cas les pionnières du cinéma fantastique en France. Mmh. Et donc, je suis hyper heureuse parce que Scarlett Blue fera sa première française le 19 mars, donc au Festival du film de femmes de Créteil. Il a déjà été projeté par contre ailleurs. On l'a projeté en Roumanie, on a remporté un prix en Espagne et on a été aussi en Inde. Et ensuite, après Créteil, il sera en Allemagne. Donc, le film démarre, en fait, depuis fin octobre, sa carrière en festival.
Une tournée nationale, en fait, on peut le dire.
Ben, j'espère, je me le souhaite. Mon film précédent, on a fait une trentaine de festivals internationaux. On a remporté 9 prix à l'étranger avant que le film sorte tout de suite sur Amazon Prime, donc Angleterre. Donc, en général, mon cinéma est plus accueilli à l'étranger qu'en France, en général.
D'accord. Patricia Barzy, on va partager le micro parce que quand on aime, on partage. Oui, oui. Donc, dans ce film, tu joues un superbe rôle, un rôle important.
Je joue un superbe rôle. Je joue le rôle de Rosie, qui est la mère d'une jeune femme qui est schizophrène.
Ouais.
Et je remercie encore Aurélia parce que c'est un très beau personnage à jouer pour une femme de 60 ans. Parce qu'on dit que les actrices, à partir de 50, 60, elles ne font plus rien. Et là, j'ai eu la chance de trouver un très très beau rôle, et j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner ce personnage.
Et comment vous avez fait connaissance? Comment s'est passée cette rencontre entre Aurélia et Patricia?
Ben ça, en fait, c'était un dîner chez Bernard Ménez. À l'époque, j'étais accompagnée de Monsieur Jean-Pierre Mocky, et j'avais rencontré, on s'était croisés, Aurélia et moi, et après, il faut poser la question à Aurélia, je crois qu'elle m'a vue. Elle s'est dit, cette actrice, j'ai envie de la prendre pour quelque chose, mais je crois qu'il n'y avait pas de rôle, enfin, qui me correspondait. Et là, elle a pensé à moi, je ne sais pas pourquoi. Enfin, un jour, elle m'a envoyé le scénario, et quand j'ai dit tout de suite, oui, c'est pour moi, le sujet me plaisait. J'avais vu un peu les films d'Aurélia avant, et son univers me plaisait, et l'esthétisme avec lequel elle travaille, et puis l'ensemble des décors, enfin, etc. Et j'ai tout de suite sauté de joie de faire ce film.
Patricia Barzyk.
Je peux rajouter quelque chose ou pas sur notre rencontre?
Oui, Aurélien.
Parce que moi, il y a une quinzaine d'années, j'étais vraiment encore toute jeune. Et en fait, mon papa, qui malheureusement nous a quittés il y a un an, pile poil quasiment le 15 février dernier, était lui-même, il est artiste, plasticien, il a fondé le premier musée d'art contemporain à La Réunion, et il faisait aussi des films documentaires sur des gens qui l'intéressaient. Il avait fait un magnifique film sur Jean-Pierre Mocky. J'avais été l'assistante de mon papa sur ce film, mais mon père, il réalisait tout seul, donc c'était un homme orchestre, hein, il n'avait pas d'équipe. Il faisait tout lui-même. Et ce film est magnifique. Et en fait, pourquoi on est allé dîner chez tous ensemble avec mon papa et ma mère chez Bernard Ménès, c'était après avoir montré le film à Jean-Pierre Mocky, et Patricia était là. Et ensuite, on est tous allés manger ensemble. Mmh. Et c'est vrai que pendant ce repas, j'étais fascinée en fait par Patricia, et je m'étais dit à l'époque un jour j'aimerais faire tourner cette comédienne, voilà. Et comme quoi, quand quelqu'un nous marque, je dis tout le temps, quand on est réalisateur, on peut être marqué par une comédienne ou un comédien, et il faut laisser la rencontre se faire, et le temps et le rôle surtout, parce que 15 ans après, je lui ai envoyé le scénario en disant que ce rôle, il était pour elle. Et quand elle l'a lu, effectivement, c'était une évidence. Enfin, pour moi, Patricia, dans le film, elle est incroyable. On vient de le passer, le film, il y a 3-4 jours à La Réunion, au festival que j'ai créé, le festival Même Pas Peur, qui est pour la 14e édition, devant une salle comble. 100 personnes ont vu le film, et il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis en pleurs parce que Patricia clôture le film. Alors, on ne parlera pas de ce qu'elle dit, mais elle fait un énorme monologue très long. Et elle a fait pleurer énormément de personnes, donc c'est génial, quoi. Je suis très contente.
Aurélien Mangin, que vous venez d'entendre. Tout de suite, sans plus attendre, on retrouve Fabienne Amiac. On va parler théâtre dans Les Artistes ont la parole. Bonjour Fabienne.
Les Artistes ont la parole, côté scène, Fabienne Amiac.
Bonjour cher Michel, bonjour à tous les auditeurs des Artistes ont la parole, bonjour à l'invité. Je suis allée voir pour vous Don Juan au théâtre Montmartre Galabru. Ça se joue les vendredis à 19h30 jusqu'au mois d'avril, et c'est assez intéressant, la mise en scène est assez contemporaine. Mais méfiez-vous de cet homme qui est un séducteur, vous savez, vous connaissez l'histoire de Don Juan, hein. Eh bien, c'est une création théâtrale d'après cette pièce de Tirso de Molina, et l'adaptation et la mise en scène sont de Fidel Pastor Sanz. Alors, l'histoire, vous la connaissez. Cette pièce s'inspire donc de ce Don Juan, vous savez, c'est ce mythe du célèbre séducteur, ce jeune homme entraîné par des pulsions amoureuses qui va l'amener dans la quête du plaisir immédiat, des conquêtes. Bref, il... on pourrait dire aujourd'hui, drague tout ce qui bouge. Mais en fait, c'est bien au-delà de cela, ça va jusqu'à l'enfer, la damnation. Parce que c'est vraiment l'histoire immorale, quelque part, de ce personnage empli d'une sensualité exaltée, pas intéressé par la religion, pas intéressé non plus par le droit et par l'honneur. Et il va effectivement enflammer le cœur des femmes, carrément un déchaînement charnel qui s'oppose au grand discours d'un amoureux qui pourrait être transi. Alors dans cette pièce, le valet de Don Juan s'érige en double de son maître, et malheureusement il ne peut rien faire pour le contraindre à avoir un comportement avec les femmes qui serait plus traditionnel. Alors je ne vous dis pas la fin, mais vous connaissez l'histoire. Don Juan, ça se termine pas si bien que ça. La pièce est exceptionnelle. Je vous conseille donc d'aller au théâtre Galabru voir cette pièce. C'est vraiment étonnant.
Merci Fabienne. Les Artistes ont la parole, c'est aussi de la musique, et pas n'importe laquelle. Nous avons Patricia qui joue dans cette émission le rôle de disque jockey, n'est-ce pas Patricia? Tu nous as choisi John Lennon.
Absolument.
Superbe.
J'aime beaucoup cette chanson.
C'est
une chanson sur les femmes, d'ailleurs.
C'est excellent.
C'est important, la femme. Enfin, je crois que de nos jours, elles sont beaucoup plus à l'honneur qu'auparavant. Mais je crois que derrière un homme se cache toujours une femme. Et dans cette chanson, Lennon l'a très bien démontré.
Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the mirror.
Artistes ont la parole, talk show multimédia numéro 1.
Grâce à vous et merci de votre fidélité, soyez les bienvenus si vous venez juste de nous rejoindre. On parle cinéma actuellement avec deux invités d'honneur, Patricia Barzik, charmante actrice et talentueuse en plus. Et nous avons allé accompagner Patricia d'Aurélia Mangin qui est en duplex de La Réunion. C'est histoire de nous envoyer un peu plus de chaleur, un peu plus de soleil sur notre métropole que nous adorons. On a besoin de soleil, n'est-ce pas Charlie, n'est-ce pas Vanessa? Vanessa qui essaie de nous envoyer du soleil, hein, elle est en duplex.
J'en ai pas beaucoup à Nice en ce moment.
En duplex de Nice, vous n'avez pas beaucoup de soleil, mais alors? C'est le monde à l'envers. Charlie avec nous dans Les Artistes ont la parole. Charlie, je vais te laisser les commandes de cette émission. Parce qu'il est, il est tout sage depuis tout à l'heure, il écoute, mais on l'entend plus.
Ah bah oui, mais je suis bien entouré. Attends, moi j'écoute tout ce qui je découvre. Mais j'ai des petites questions quand même à poser. Et puis Patricia, j'ai quand même tout à l'heure Michel a dit Miss France 1980 à 16 ans, ouais. Super. Mais aussi première dauphine de Miss.
Oui, Mont- absolument au Royal Albert Hall à Londres en 1980. J'ai manqué d'être Miss Monde.
Super, super performance. Hein. Première dauphine quand même de Miss Monde.
Geneviève de Fontenay m'accompagnait à cette élection.
À cette élection. Il y a un lien aussi avec la musique. Entre autres avec Duran Duran.
Ah oui, absolument. J'ai fait un vidéoclip
dans New Moon et dans Monday.
Une version longue et une version courte avec Simon Le Bon, le chanteur de Duran Duran, et toute son équipe de chanteurs, Nick, etc. Et c'était un super clip, et j'ai adoré faire ce vidéoclip pour Duran Duran. C'était un groupe très en vogue à l'époque.
Oui, tout à fait. Mais comment on passe de Miss France à un clip de Duran Duran?
Ben écoutez, j'ai d'abord été mannequin, pour gagner ma vie, parce qu'en fait, je voulais être comédienne, mais j'avais rencontré Margot Capelier à l'époque, qui m'avait dit, écoutez, faites d'abord des photos, et ensuite, faites comédienne, parce que ça vous permettra de gagner un peu de sous et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Francis Perrin dans un tout petit rôle, et ensuite, avec Manoël de Oliveira, où j'ai joué le rôle de Donia Prouès dans Le Soulier de Satan de Claudel. Ça, c'était un rôle magique. Parce que c'était une femme de guerre, une femme noble et un personnage puissant à interpréter qui ne retrouve jamais son grand amour. Et ma fille était jouée par Anne Consigny à l'époque. Elle jouait le rôle de Donia Cetepe. Et c'était un film où il y avait 90 acteurs, dont Jean-Yves Berthelot et bien d'autres, Marie-Christine Barrault. Et ensuite, j'ai enchaîné avec les films de Jean-Pierre Mocky, enfin surtout avec La Machine à découdre. Dans mon choix de comédienne, j'ai trouvé que deux rôles à l'opposé total étaient intéressants. Et puis ensuite, j'ai fait carrière dans le mannequinat. Je suis retournée dans le mannequinat aux États-Unis, à New York et à Los Angeles. Et je suis rentrée en France pour tourner des séries télé en Bavière, notamment avec Raymond Pellegrin qui était... J'ai travaillé avec toute l'ancienne génération. Aurélia est la plus jeune, en fait. J'ai travaillé avec tous les anciens, avec Robert Hossein, avec Roger Hanin, avec Manoël d'Oliveira, qui est mort quand même à 106 ans. Monsieur Jean-Pierre Mocky, évidemment, qui m'a beaucoup appris et qui m'a fait travailler avec de grandes stars comme Michel Piccoli, Michel Serrault, j'en passe. Enfin, il y en a toute une... beaucoup de grands comédiens. Et c'est très impressionnant de jouer devant des vedettes comme ça parce que Michel Piccoli, pour moi, c'était un mythe, quoi. C'était les films de Claude Sautet avec Romy Schneider, Les choses de la vie, etc. Et se retrouver partenaire de Piccoli dans le film qui s'appelait... je me souviens plus du titre parce qu'on en a fait tellement. J'ai tourné 24 films avec Jean-Pierre Mocky.
Et l'artiste qui a été le plus, qui a eu le plus d'impact dans la carrière, c'est qui? C'est Piccoli ou c'est Mocky?
C'est Michel Serrault.
C'est Michel Serrault.
C'est Michel Serrault parce que quand j'ai rencontré Michel Serrault, j'avais très peur parce que quelquefois, il pique des colères sur les tournages. Il piquait des colères sur les tournages. Et je me suis dit, oh là là, s'il en pique une avec moi, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Donc, j'étais toute douce, toute gentille. Et finalement, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu un problème avec un comédien qui l'a viré. Mais moi, ça a été. Bon, j'avais une petite scène avec lui. Mais pour moi, tourner avec Michel Serrault, c'est dans la vie un homme très, c'était dans la vie un homme très simple, enfin formidable, très émouvant parce que très simple par rapport au personnage qu'il jouait à l'écran, qui était beaucoup plus nourri de tout ce qu'il donnait, etc. Donc Michel Serrault, ça a été mon plus grand souvenir. Et Michel Piccoli aussi, mais c'était différent. J'ai davantage rencontré Michel Serrault que Michel Piccoli. C'est peut-être pour ça que je dis ça.
Très bien, merci beaucoup Patricia.
Les artistes ont la parole. La minute coup de cœur.
Aurélia, j'ai quelques petites questions aussi parce que j'ai été faire un peu mes recherches. Comment on passe des études supérieures en économie mathématique à la Sorbonne et qu'on se retrouve sur une carrière de comédien?
Même moi, je me pose encore la question, hein, j'avoue. mais moi, j'étais très, très brillante en fait à l'école. J'ai eu mon bac avec mention. J'étais toujours en première de la classe. J'étais majeure de promotion. J'ai passé le concours de l'ENA, j'ai eu la bourse de mérite pour passer le concours de l'ENA. Donc, c'est vrai que j'avais vraiment une ambition assez folle de faire de la politique culturelle et aussi de faire des théorèmes de recherche en maths. Donc, j'avais vraiment la même passion, en fait, hein, dans mes études. Je fais les choses par passion et quand je n'ai plus de passion, j'arrête. Et en fait, voilà, c'est à un moment donné, quand j'étais à la Sorbonne, dans ce DEA, mon cœur a arrêté de battre, en fait, pour les mathématiques, tout simplement. Et j'étais très timide et très réservée. Je suis toujours, alors ça se voit pas forcément dans mon travail, parce que mon travail est excessif, mais ma personnalité à moi est assez réservée. Et parfois, même, assez antisociale, hein. Je suis pas quelqu'un qui adore être beaucoup entourée. J'aime beaucoup la solitude. Et c'est vrai que j'avais le meilleur ami de mon frère, qui lui était en classe libre au cours Florent. Et à chaque fois qu'il me racontait ce qu'il faisait au théâtre, je me disais que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse dans ma vie pour essayer de débloquer des choses qui étaient très nouées chez moi. Et aussi une recherche, une réconciliation avec peut-être ma propre féminité et puis cette ambivalence entre le côté masculin qui est très présent chez moi et le féminin. Et j'avais la sensation que pour trouver cette osmose-là, ça passerait par l'école de théâtre. Alors du coup, j'ai passé le concours pour entrer en école d'acting international en acteur studio. Et puis, j'ai fait ces 3 années d'école. Mais je me suis tout de suite mis en parallèle à la mise en scène, en formation à la mise en scène et à la direction d'acteurs, parce que je trouvais ça fascinant, en fait, de diriger les acteurs et de mettre en scène. C'est-à-dire que la mise en scène m'a tout de suite intéressée. Et dès que j'ai terminé l'école, en même temps que je passais des castings, j'ai tout de suite écrit, en fait. Et j'ai tout de suite commencé à réaliser des clips, des courts-métrages, des pièces de théâtre que j'écrivais. Et voilà. Et naturellement, finalement, je suis réalisatrice et c'est la seule chose que j'ai pas appris, parce que j'ai jamais appris à réaliser un film, en fait. Donc, cette partie-là, mais finalement, par contre, que j'affectionne, je suis autodidacte là-dedans.
Le résultat est là. Hein. Comédienne, réalisatrice, productrice, Aurélia Mangin. C'est un beau parcours, les filles, là, je vous assurez. Hein. Vraiment, vraiment.
Ce qui est important dans mon parcours, ce qui est étonnant surtout, c'est que avec donc mon premier long métrage, donc moi j'ai fait huit courts métrages, ensuite j'ai fait mon premier long métrage qui effectivement Fornaci, j'ai autoproduit, donc c'est quand même une prouesse. Je joue dedans le rôle féminin principal avec Anna Danudio, Emmanuel Bonamy, Philippe Naon, notre regretté Philippe Naon que j'adore d'amour. Et en fait, avec Fornacis, que j'ai réalisé en 2018, je suis devenue la première femme réunionnaise à réaliser un long métrage pour le cinéma. Et ce qui est quand même énorme et ce qui m'a valu avec le festival et mon film là, de recevoir la médaille de l'engagement ultramarin par le ministère, par le ministre des Outre-mer, et c'est hyper fort parce que ça veut dire que ça marque quand même l'histoire du cinéma sur une île, parce qu'à La Réunion, on n'est pas, enfin, c'est très compliqué de faire du cinéma, il faut comprendre ça.
Aurélien Mangin, avec nous dans Les Artistes ont la parole. On va retrouver, comme on parle cinéma, on va retrouver la suite avec Carmela Valente tout de suite. Bonjour Carmela.
Les Artistes ont la parole, 7e art.
Bonjour Michel, bonjour à vous. Bis Repetita, c'est une comédie hilarante de Émilie Noblet avec Louise Bourgoin dans le rôle d'une prof de lettres désabusée qui s'est mise d'accord avec ses élèves. Il lui fiche une paix royale en échange, elle leur distribue des 19 sur 20. Mais la combine se retourne contre elle quand ses excellents résultats fictifs propulsent sa classe au championnat du monde de latin à Naples. Comble du cauchemar, c'est le neveu très zélé de la proviseure qui est choisi comme accompagnateur. Pour sauver l'option latin et surtout sa situation, Delphine ne voit qu'une solution, tricher. Quand sœur Francesca Cabrini débarque à New York en 1889, elle ne possède rien, tout comme des milliers d'immigrants italiens. Mais avec l'aide de quelques sœurs et malgré sa santé fragile et son isolement dans une société patriarcale, elle va se lancer dans une aventure sans précédent, construisant un orphelinat, puis un hôpital et progressivement un véritable empire de l'espoir. Son audace, sa pugnacité, sa charité feront d'elle la première sainte des États-Unis d'Amérique canonisée en 1946 par le pape Pie XII et elle recevra le titre de patronne des immigrés. C'est le film Cabrini, réalisé par Alessandro Monteverde, à qui l'on doit Sound of Freedom, et qui retrace les événements réels de cette femme hors du commun. Roméo et Juliette s'éprennent l'un de l'autre au bal masqué des Capulet, mais leurs familles respectives sont ennemies. Le frère Laurent, qui voit en l'amour des jeunes gens un moyen de réconcilier les deux familles, accepte de les marier en secret. Mais une vendetta féroce entre les Montaigu et les Capulet n'en finit pas de faire des victimes. Deux stars au sommet incarnent les amants de Vérone dans la mise en scène réaliste et romantique de Bartlett Sher, le ténor français Benjamin Bernheim et la soprano américaine Nadine Sierra pour une retransmission qui s'annonce spectaculaire. Roméo et Juliette au Metropolitan Opera à voir dès le 20 mars. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était Carmela Valente pour Les Artistes ont la parole.
Merci Carmela. Les Artistes ont la parole, c'est aussi de la musique. Et pas n'importe laquelle, car nous avons justement Aurélia qui est en duplex de La Réunion, c'est important de le souligner. T'es à quel endroit de La Réunion, du côté de Saint-Gilles ?
Pas du tout, je déteste Saint-Gilles. Non, mais c'est tellement... Saint-Gilles, c'est un peu... je dirais que c'est un peu la Côte d'Azur française, quoi. Donc, c'est quand même le quartier général de tous les métropolitains. Donc, moi, pas du tout. Je suis dans les hauteurs de Saint-Pierre. Je suis à la Ravine des Cabris et je suis, en gros, dans la ville sur le flanc du volcan, quoi.
D'accord.
Piton de la Fournaise. Et Fornaci, ça veut dire Piton de la Fournaise en latin.
Fornaci.
Et
ça tombe bien. On va écouter le son. Tout de suite, c'est dans Les Artistes ont la parole.
Il y en a qui ont essayé.
Oui, non, mais d'accord.
ils ont eu des problèmes.
Les artistes ont la parole, Michel Berger.
Ben ouais, c'est ça, il y en a qui m'ont essayé, ils ont eu des soucis. Les artistes ont la parole. Eh, vous voyez, avec un petit jingle, comment on arrive à faire rire les gens du cinéma, Charlie et Vanessa.
Oui,
mais on peut tenter de la refaire, allez. C'est parce que c'est vous, hein.
Il y en a qui ont essayé.
Mais non, mais d'accord.
Ils ont eu des problèmes.
Les artistes ont la parole, Michel Berger.
Eh ouais, voilà, c'est passé. Les artistes ont la parole à l'honneur toute la semaine sur le réseau national et international des artistes ont la parole. Patricia Barzik qui est avec nous, accompagnée d'Aurélia Mangin qui, c'est vrai, vous pouvez le voir sur la vidéo, un joli sourire. Vous avez des jolis sourires tout le monde. Patricia, un joli sourire. Vanessa aussi qui est en duplex de Nice. Et puis Charlie qui est caché derrière son superbe micro façon Good Morning Vietnam, micro vintage, ça c'est le mot à la mode, vintage. Le truc, il a plus de 40 ans, on appelle ça vintage. Vous avez pas remarqué?
Moi, je suis une fan du vintage alors.
Ouais. Ah, moi, 40 ans. Moi, je suis vintage aussi, hein, plus de 40 ans.
Les artistes. Non, mais il va falloir qu'on invente des mots parce que vintage, pour des choses qui ont 40 ans, c'est un peu moyen. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve ça poétique. Je trouve que c'est un joli mot. Non, mais c'est vrai.
C'est gentil, oui.
Les artistes ont la parole, on parle cinéma. Donc on va revenir sur le film en lui-même. On n'en a pas beaucoup parlé. Qui veut en parler? Aurélia, Patricia ou les deux?
Les deux.
Alors on vous écoute. Patricia, le film.
Scarlett Blue. Ben, je pense que c'est peut-être Aurélia qui va en parler la première, parce qu'il s'agit, l'actrice principale, en fait, le rôle principal, est joué par un personnage qui est schizophrène.
Mm-hmm.
Donc, c'est un sujet important du film. Et moi, je joue sa mère. Donc, en fait, je joue le rôle de Rosie, qui est une mère aimante et qui est le seul personnage de l'histoire qui est ancré dans la réalité.
Mmh.
Les autres personnages, c'est y a la schizophrénie, évidemment, et ça, je crois qu'Aurélia en parlera mieux que moi.
Aurélia.
Oui, c'est un film, effectivement. Mon travail tourne depuis toujours autour du dédoublement de personnalité, autour de la folie, autour du désir féminin aussi. Donc, c'est vraiment un film très féministe parce qu'on a des rôles féminins forts. On a quatre actrices, même non. Deux autres en plus dont on ne doit pas dévoiler. Donc, on a 6 femmes dans le film. C'est quand même énorme.
Mmh.
Et c'est vrai que le film pose la question, en fait, du secret de famille, puisque au fur et à mesure que l'intrigue avance, on se rend compte que le personnage d'Alter porte une véritable fracture, une douleur, une déchirure intérieure dont elle ignore, en fait, d'où ça vient, l'origine profonde. Et en fait, pour essayer de se soigner de cette dépression et de comprendre d'où vient cette schizophrénie, qui est quand même une schizophrénie extrême, hein, puisqu'en fait, tout l'enjeu du film et toute la force, je crois, en tout cas l'originalité de Scarlett Blue, c'est que j'ai filmé, j'ai créé les décors de ce que le personnage d'Alter voit dans ces crises de schizophrénie. C'est-à-dire qu'on ne traite pas de la schizophrénie de façon classique, en voyant et en échangeant avec un psychiatre, comme on pourrait le faire dans un film normal, lambda.
Mmh.
En fait, la schizophrénie, j'ai matérialisé à l'écran, j'ai construit les décors de ce que le personnage voit et de sa souffrance. Et c'est en ça que le film bascule dans le fantastique, dans le surréalisme, mais dans l'irréel. Et pour se faire soigner, en fait, elle se rend dans une grotte volcanique souterraine pour rencontrer un guérisseur qui pratique une hypnose radicale, c'est-à-dire qu'elle est quand même enchaînée, il l'enchaîne, hein, tellement la pratique d'hypnose est tellement violente et la propulse dans un univers terrifiant.
Mmh.
En fait, et ce guérisseur est interprété par Stefano Cassetti, qui est un acteur très très reconnu italien, qui est formidable dans le film. Et je pense que la vraie force du film, en fait, c'est ce basculement entre le monde irréel, imaginaire d'Alter, en fait, et le monde réel. Et j'ai traité les deux formes avec la même esthétisme. Et c'est ça qui est justement, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, au bout d'un moment, on perd le pied. J'ai voulu que le spectateur lui-même soit aussi perdu
que le personnage principal. Et du coup, en fait, dans mon traitement de l'étalonnage, du montage, donc de l'image, hein, de la couleur et du montage, au bout d'un moment, nous-mêmes, on ne sait plus si on est dans le réel ou dans l'irréel et qui est dangereux. Et on se rend compte au fur et à mesure, et c'est pour ça que le rôle interprété par Patricia, donc de la maman, de Rosie, est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une mère très dangereuse malgré tout. Et ça, on s'en rend compte au fur et à mesure du film qu'elle cache un lourd secret qui fait que son personnage, il est ambivalent parce qu'il est aussi lumineux que obscur et presque démoniaque parfois.
Et oui, c'est un plaisir fou, enfin, je tenais à le dire encore une fois.
Oui, Patricia.
À jouer ce personnage, c'était... dans ma palette de rôles que j'ai eu jusqu'à présent, je n'avais jamais eu un rôle comme celui-ci. Et c'est formidable de tourner encore à 60 ans, parce que j'ai 60 ans maintenant. Et ce rôle est un rôle formidable pour une femme de mon âge, de 60 ans.
Patricia Barzic.
Et c'est rare.
Surtout, en fait, même dans les costumes, par exemple, Patricia, c'est le personnage qui change de costume à chaque fois. Elle est complètement... c'est un personnage fantasque et on est vraiment dans les années justement vintage, hein, on est dans les années 70, c'est moi qui réalisais les costumes et elle a une palette de costumes absolument dingue en fait et de maquillage et ça c'est vraiment génial parce qu'on a presque l'impression d'être dans des personnages peut-être sortis d'un film d'Almodovar quoi, quand on regarde Patricia basculer dans l'univers de David Lynch quoi. Donc c'est un peu cette rencontre là et c'est vrai que Patricia m'a fait confiance parce que quand on était dans les tests maquillage et costumes, c'était quand même assez délirant ce que je proposais en costume pour elle. Et en fait elle est allée à fond et c'est génial parce que du coup le personnage il est fou en couleur, il est vraiment il capture les gens.
Oui, je crois
au
film à fond aussi. Oui.
Patricia Barzic, Aurélia Mangin dans Les Artistes ont la parole.
Les artistes ont la parole. La minute souvenir.
Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient quatre garçons.
Les artistes ont la parole, c'est aussi un rituel. Effectivement, comme son nom l'indique, c'est donner la parole aux artistes. Vous allez me dire, c'est ce qu'on fait depuis le début. Mais soit, il y a quand même la question qui appartient, c'est vrai, à cette émission et qui est là aussi pour faire bouger les choses. On imagine, Patricia et Aurélia, qu'il y a des faits de société qui vous retiennent l'esprit et sur lesquels vous souhaitez réagir et vous exprimer.
Il y en a beaucoup de faits de société.
Non, j'imagine que vous avez peut-être votre mot à dire sur le sujet des femmes, par exemple.
Oui.
Dans la société.
Alors, moi, en tant que comédienne directrice fondatrice d'un festival de films fantastiques qui a 14 ans, qui prépare la prochaine édition, ce sera 15 ans. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est et j'insiste. D'outre-mer, une femme des îles. Mmh. Donc, je vous laisse imaginer si c'est difficile pour les réalisatrices parisiennes, ce que c'est pour une femme des outre-mer. Et c'est vrai que ce que je peux dire, c'est que c'est un combat permanent. Mais pas uniquement en tant que femme. Je crois que le vrai combat, moi, que je mène, je trouve que c'est très compliqué en France actuellement de réussir à réaliser du cinéma indépendant, du cinéma qui sort des cases. Oui. Je trouve qu'il y a une pauvreté absolue du cinéma français actuellement. On est quand même dans une dictature du cinéma qui rapporte, c'est-à-dire du cinéma commercial. Moi, c'est vraiment le vrai
critère
que j'ai envie de donner parce que je trouve qu'aujourd'hui, s'il y a un appauvrissement de la créativité cinématographique, c'est-à-dire que on est tellement omnibulé par vendre des places de cinéma et rapporter de l'argent,
et gagner
finalement,
de l'argent.
Ça laisse très peu de marge pour les tentatives comme a pu faire Jean-Pierre Mocky, comme on fait à l'époque Godard, comme on fait Buñuel. et voilà, et j'en passe, enfin voilà, et je crois des mecs comme Jodorowsky, des gens dont j'adore le travail. Je crois qu'aujourd'hui c'est très compliqué pour des jeunes réalisateurs qui en plus comme moi ne sont pas issus du milieu du cinéma, donc qui n'ont pas, en fait moi j'ai pas de ramifications, bah c'est très compliqué de monter un film, on n'a pas d'aide. Moi mon film il n'a pas eu du tout de soutien d'aucune région, et mon film précédent d'avant non plus. Et je crois qu'il est temps d'ouvrir le cinéma aussi, ce milieu qui est cloisonné à triple tour, à de jeunes réalisateurs qui sont pas le cousin, le petit cousin, le neveu de gens du cinéma, et qu'il faut, oser faire des films différents et arrêter de prendre le public pour des cons. Enfin, moi, je crois que c'est ça, mon message.
Taurine, oui, Patricia.
Non, j'ai démarré dans ce métier. J'étais pas issue d'une famille d'acteurs ni rien. Quelque part, je suis une self-made woman. J'étais Miss France, ce qui n'était pas facile à l'époque, parce que quand on a été Miss France, c'était à l'époque très controversé. On n'était pas capable d'être comédienne, on n'était pas capable de faire un autre métier que celui de belle-fille, etc., etc. Donc j'ai dû me battre toute seule, en commençant par le mannequinat, qui n'était pas vraiment ce qui me plaisait, mais ça m'a permis de gagner un peu de sous et de payer mes cours de comédie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont formidables. Le métier de comédienne, c'est le plus beau métier du monde quand on travaille, mais quand on galère toute la journée, c'est aussi un métier qui est très difficile. Mmh, et je pense à les comédiennes qui n'ont pas la chance de faire de beaux rôles, ou comme je l'ai eu, de travailler avec Manuel de Oliveira, Jean-Pierre Mocky, Aurélia Mandrin. Ça peut être à double tranchant. Voilà.
Merci Patricia. On va retrouver tout de suite Eric Pless pour la Téléstory. Bonjour Eric.
Les artistes ont la parole. Story TV, Eric Pless.
Bonjour Michel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Eric Pless pour TV Story. 1985, les débuts de Canal+ sont difficiles. Les abonnements ne suivent pas. Il faut attirer le chaland par tous les moyens. Les émissions mises à l'antenne en novembre, telles le 7-9 avec Michel Denisot et Christophe de Chavannes, Jean-Pierre Coff, Alain Chabat ou Dominique Farrugia comme chroniqueur ou présentateur météo, puis les émissions de talk show le soir, Zénith. En direct, avant le film de 20h30 ou le match de football, aidé aussi par de nombreux sports, comme la boxe, qui est bien représentée avec de grands combats le samedi soir, le sport américain, basket, football, catch, puis côté musique, apparition du top 50 avec Marc Toesca, mais tout cela ne suffit pas. Donc, on propose un film pornographique qui passera chaque samedi à minuit, encrypté bien sûr, et là, tout redémarre. Sur les autres chaînes, Antenne 2 propose aussi Télématin, sur à peu près la même tranche, 7h-9h. TF1 propose une nouvelle émission politique, Questions à domicile, avec Anne Sinclair, qu'on a vu sur 7/7, et Pierre-Luc Séguillon. Les deux journalistes se déplacent à domicile chez l'invité pour l'interviewer. À la semaine prochaine.
Merci Eric. Les artistes ont la parole, c'est aussi de la musique. Eh ben oui. Et pas n'importe quelle musique. C'est Patricia qui a choisi ce single. Eddie Mitchell, pourquoi ce choix, Patricia, avec la dernière
Parce
séance
que Eddie Mitchell, je crois que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma. D'ailleurs, il avait tourné dans un film de Jean-Pierre Mocky. Il avait fait tourner un... Je ne sais plus le nom du film. Pourtant, je l'ai... Je ne me souviens plus. Il a joué un rôle, Jean-Pierre Mocky, il a lancé au cinéma. Et en plus, il aimait beaucoup le cinéma et il faisait cette émission, La Dernière Séance, où il présentait un film tous les mardis soirs.
On s'en souvient, c'était...
Avec de la musique, c'est sur un fond de musique d'Eddie Mitchell, je crois.
C'était à l'époque sur FR3.
C'était sur FR3, absolument.
On s'en souvient.
Et moi, je regardais tous les mardis cette émission. C'était un rituel. C'est dommage que j'ai plus d'émissions comme celle-là.
Eddie Mitchell, tout de suite dans Les Artistes, on la parle avec la dernière séance.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin. Il mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building super.
Les artistes ont la parole.
Les artistes ont la parole, merci de votre fidélité, soyez les bienvenus si vous venez juste de nous rejoindre. Vous avez loupé le début de l'émission, ça peut arriver, mais ça arrive à tout le monde, même à nous. Ça peut nous arriver, Charlie, n'est-ce pas ?
Oh bah oui, écoute,
bah hein, ouais, ouais.
Nous ne sommes que des humains.
Bah ouais, Vanessa aussi.
Ah bon ?
Eh ben, vous avez loupé le début de l'émission, il y a une solution de rattrapage, c'est le podcast. Oui, effectivement, vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet de l'émission, accompagné aussi de la version vidéo, on appelle ça un replay, pour ceux qui suivent, et c'est magnifique, comme ça vous pouvez retourner au début, si on fait des grimaces, vous pouvez zoomer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et c'est sur internet, hein, puis aussi sur les réseaux sociaux habituels que vous connaissez. Dans Les Artistes ont la parole, à l'honneur, sur le réseau national et international de cette émission, Patricia Barzyk, que vous pouvez voir sur le grand écran, accompagnée de sa réalisatrice qui est Aurélia Mangin, qui est en duplex de La Réunion. Ça nous fait rêver, on a envie d'être des héros et des je sais pas pourquoi, on a envie vite de se transférer à La Réunion, et c'est vrai, c'est important de le souligner.
Partirai certainement l'an prochain pour le festival Même Pas Peur qu'organise Aurélia, c'est prévu.
Ah, et vous envoyez, ouais. vous envoyez les billets d'avion avec.
Si seulement
on verra,
si seulement
pour les billets d'avion.
Non, mais c'est un bel endroit, La Réunion, c'est une superbe île.
Oui, bon, paraît-il qu'en plus, c'est magnifique.
Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Je me souviens d'un moment de ma vie, là, d'une petite visite à La Réunion. Et puis c'est sympa pour se baigner. Vous baignez, vous mettez les pieds dans l'eau, vous avez des poissons, vous savez pas ce que c'est.
C'est
vous nagez vite, là.
J'ai beaucoup voyagé, mais je ne suis jamais allée à La Réunion.
C'est magnifique, c'est un bel endroit.
Les îles, mais pas La Réunion, donc ce sera une première, ce sera super.
Et puis il y a des bons petits plats.
Pour le festival de films.
Et puis à La Réunion, il y a des bons petits plats épicés. C'est quoi ton plat préféré, Aurélia, que tu manges à La Réunion ?
Créole.
Il y en a énormément parce qu'en fait, c'est multiculturel à La Réunion. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a la population, en fait, elle vient d'Afrique, d'Inde, de Chine. Et donc, en fait, on a donc les plats créoles, mais tout ça, c'est mélangé. Donc, moi, j'aime énormément, c'est assez basique, hein, parce que c'est vraiment le plat, je crois, l'un des plus basiques, c'est le carré poulet au petit pois, que j'adore.
Ah là là.
Et j'adore le chop choy, et ça, c'est le côté chinois de l'île. J'adore ça. C'est deux plats que j'adore.
Ah,
après, forcément,
ça.
Ce qui est pas mal, c'est tout ce qui sont les... Parce que quand vous donnez des cacahuètes et des pistaches, hein, à vos apéros, c'est un peu tristoun. Nous, on donne des samoussas et des bouchons, c'est un peu plus sympa.
Ça sent bon.
C'est un peu plus généreux.
Ça sent bon. Ça sent bon, tout ça. Les artistes ont la parole. Quatrième partie de cette émission, c'est Vanessa Luciano qui va tenir les manivelles du vaisseau, parce que là, nous voyageons à une vitesse de 300 000 km/s, nous faisons de la radio, donc à la vitesse des ondes, à la vitesse de la lumière. C'est magique. Vanessa.
Oui, alors, la quatrième partie est liée à l'amour, hein, puisque en toute fin d'émission, il y a une chronique un petit peu sexo, un petit peu coquine. Qui est faite par Ambroël, ma consoeur. Et en fait, j'avais envie de parler d'amour avec vous, mais un amour particulier. Je voulais dire aux auditeurs qui n'assistent pas forcément aux pauses qu'on fait régulièrement dans cette émission de radio, que j'ai assisté à de jolies conversations et j'ai remarqué énormément d'amour, de bienveillance, de complicité entre nos deux invités, Aurélia et Patricia. Je trouve ça étonnant parce que c'est vrai que c'est plutôt rare. On a quand même Patricia qui est d'une génération, je crois qu'il est née début des années 60. Aurélia nous a pas
oui,
dit, nous a pas
63. Je suis née en 63.
Aurélia,
j'ai pas peur
Aurélia
de dire.
Nous a pas dit quelle à peu près quelle période tu es née, toi. Ah,
mais moi, j'ai pas de honte au niveau de la période parce qu'en fait, ce qui est fort, c'est que moi, je suis née en 1980 et c'est l'année où Patricia a été élue.
Exactement. C'est fou parce que je m'en doutais. Dans les années 80, je me disais.
Je me suis dit que c'était clairement un signe quand elle m'a dit que j'ai été élue Miss 1980, je trouvais que c'était un signe parce que c'est mon année de naissance. Et ouais, bizarrement, dans mon équipe technique, depuis 14 ans, je travaille avec le même sound designer, compositeur, Nicolas Luquet, dont on a écouté tout à l'heure un des morceaux de la bande son de Fornasis. Il est aussi de 1980, mon monteur et mon étalonneur. Donc, c'est-à-dire qu'on a une team là, on n'a pas fait exprès, on s'est tous retrouvés, on vient tous d'horizons et de villes différentes, on s'est retrouvés à Paris il y a plusieurs années et on est de cette année-là. Et donc, Patricia, c'est un peu notre porte-bonheur là sur le film.
La mascotte.
Et, alors, la question que j'avais envie de vous poser à toutes les deux, c'est cette jolie connivence que vous avez, cette complicité, est-ce que vous la qualifieriez d'un rapport mère-fille ou d'un rapport petite sœur-grande sœur? Comment vous vous sentez toutes les deux?
Moi, je ressens pas du tout un côté mère-fille. Et même ce qui est paradoxal, c'est que j'ai parfois... Enfin, tu me diras, Patricia, peut-être que je me trompe.
Oui.
Mais parce qu'on se voit beaucoup. Quand je suis à Paris, on se voit vraiment régulièrement. Oui. On a eu un vrai coup de foudre. Mais j'ai même parfois l'impression qu'en fait, c'est le courant, il est alternatif. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui vais rassurer Patricia sur des choses. Et j'ai l'impression que des fois, c'est elle. Par exemple, sur le tournage, Patricia me demandait... Elle me demandait tout le temps avec l'autre aussi acteur Stefano Cassetti et Emmanuel Bonamy, ils étaient toujours à me demander avec Anne-Sophie Charon quand même comment j'allais, est-ce que ça allait, parce que c'était un film très très ambitieux et on n'avait que 19 jours pour le tourner. Et c'est vrai que Patricia
on a tourné des messages,
voilà, pour savoir comment je vais quand j'ai perdu mon papa. Patricia était très présente alors que j'étais à la Réunion. Oui. Elle m'a beaucoup. Je trouve qu'on a
j'ai connu son papa. Oui, il a tourné dans le film Scarlet Blue d'ailleurs.
Oui, mon papa tourne dans le film, ouais. Et effectivement, on a un rapport. Je pense qu'on a un rapport qui est, je dirais pas mère-fille, mais je dirais, en fait, moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours fréquenté des copines qui avaient minimum 10 ans de plus que moi et même mes potes. Donc, moi, j'ai vraiment un rapport de connivence. Je vois pas de différence d'âge entre Patricia et moi. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens. Je sais pas, Patricia, comment c'est pour toi.
Mais moi, je vois pas. C'est évident qu'Aurélia, elle est un peu plus jeune. Enfin, dans son esprit, évidemment, je reconnais sa jeunesse et sa vivacité d'esprit que j'avais quand j'avais son âge et que j'en ai plus maintenant. Un rapport mère-fille, disons que ça peut de temps en temps être ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus une connivence. C'est plus une connivence. On s'aime beaucoup, on respecte le travail.
En tout cas, ça se ressent énormément, énormément votre amour l'une pour l'autre. Et c'est ce que je voulais souligner aux auditeurs aujourd'hui.
Ça me touche.
Vanessa. Vanessa Luciano dans Les Artistes ont la parole. C'est l'heure de retrouver sans plus attendre. Ambrel, qu'est-ce que vous en pensez?
Allez, on y va.
Les Artistes ont la parole. L'instant sexo de Ambrel.
Bonjour Michel. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais évoquer le baiser, mais pas n'importe lequel, le baiser parfait. Et oui, on s'embrasse, on se bécote, on se bisouille, on s'étreint, on se suce la pomme, on se roule une pelle. Mais est-ce qu'on le fait bien? Je vais peut-être vous apprendre quelques petites choses au cours de cette chronique. On ne va bien sûr pas parler du baiser témoignage d'affection donné aux proches, comme la famille ou les amis, mais on va plutôt évoquer le baiser du prélude amoureux, le rituel du jeu sexuel, celui qui est long, profond et qui réveille le désir chez les deux partenaires. Non seulement il réveille le désir, mais il fait aussi monter l'excitation. Goût, toucher et odorat, il met en jeu trois de nos cinq sens. Alors oui, c'est fortement érotique. De tendre, la bouche peut devenir fougueuse. Elle goûte, mordille, lèche, suce, et le corps entier prend du plaisir sous les infinies caresses de la langue et des lèvres. En tant que sexothérapeute, j'entends souvent cette phrase « On ne s'embrasse plus ». Ce sont souvent des femmes qui me disent ça. Pas assez embrassées, elles ne se sentent plus désirées et déplorent le manque de tendresse de leur partenaire. Alors comment faire pour bien embrasser ? Comme toujours en amour, il n'y a pas de méthode standard, et c'est à chacun, chacune, d'imposer son style. Simple point de départ, le baiser profond s'effectue bouche ouverte et lèvres jointes, salive mélangée.
les langues se rejoignent, se découvrent, se lèchent, se titillent, partent à l'assaut du palais, de l'intérieur des joues ou des dents et des lèvres de l'autre, qui peuvent aussi simultanément être sucées ou mordillées. Pour progresser et maîtriser la technique, rien ne vaut l'entraînement, mais un baiser donné avec le cœur est rarement raté. Je vous ai parlé du baiser sur la bouche, c'est la zone la plus sensible du visage, stimuler ça déclenche un fort désir sexuel, mais vous pouvez aussi embrasser le visage, front, nez, joues, les oreilles, le cou, ah le cou. Et puis toutes les zones érogènes du corps, truc à éviter tout de même. La laine désagréable, la langue trop intrusive, les mouvements très rapides, il faut laisser l'autre vous guider, les échanges trop humides, lèvres et langue très molles aussi. Il faut savoir en fait allier souplesse et fermeté. Bon, j'espère vous avoir donné envie avec tout ça. Allez, on part tous se bécoter. C'était l'info sexy de Ambre L. À la semaine prochaine.
Merci Ambre. Les artistes ont la parole. On a appris plein de choses, Vanessa, en écoutant votre la femme qui se cache derrière vous. On a encore appris plein de choses. On en apprend tous les jours. Même Charlie, je l'ai vu prendre des notes.
Alors moi, je prends tout le temps des notes, moi, parce que je me dis, tiens, ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis tu sais, moi, je fais partie de la génération des années 50, alors tu sais, il y a un moment, on est quand même un peu plus vieux. Je suis un peu vintage, quand même. Des stylos vintage sur du papier vintage. Mais non, il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites dans cette émission. Et je suis assez surpris de tout ce qui a été fait par Patricia Barzic et Aurélia Mangin. C'est vraiment superbe. Ah, félicitations.
C'est magnifique, on vous félicite. Cette émission, ouais, dès qu'on entend, dès qu'on écoute Ambre, en fait, pour tout vous avouer, après la chronique,
tout... ça annonce.
Voilà,
c'est triste.
Ça annonce un truc. C'est au cinéma, c'était marqué avant. Maintenant, ça c'est presque plus. C'était marqué The End. C'était marqué en gros. Hein, ça s'appelle La fin. FIN de cette émission. Quelque chose à rajouter rapidement parce qu'on est un peu hors fenêtre. Patricia.
Il faut aller voir Scarlett Blue.
Aux gens d'aller, voilà, c'est ça, d'aller voir Scarlett Blue, de venir à cette première.
Le 19 mars.
Voilà, le 19 mars. Le 19 mars au Festival international des femmes de Créteil.
C'est noté.
Ouais. À 20h30.
C'est en région parisienne, c'est en métropole, voilà.
En région parisienne, voilà. Oui, absolument.
C'est en direct avec la ligne 8, hein, donc...
D'accord.
Je dis ça parce que moi, je vais venir de la région, donc je prends quand même l'avion pour venir. Et quand les Parisiens me disent « Ah, ça peut être loin », je me dis « Mince, moi, j'ai quand même pris 12 heures d'avion pour venir. Je crois qu'on peut prendre un métro, quoi. »
Les artistes ont la parole. Merci, en tout cas, d'être venus. On croise les doigts pour ce film. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas, Vanessa?
Absolument, Michel.
N'est-ce pas, Charlie?
Pas de souci, avec grand plaisir.
Et puis on va se quitter sur un 45 tours. Je sais que tu aimes les 45 tours, Charlie. Tu aimes quand ça craque. On va se quitter avec un souvenir des années 80. Ouais, on est un peu vintage en ce moment, les artistes ont la parole. On va se quitter avec Van Halen et Jump. Allez, on se retrouve la semaine prochaine sur cette même antenne. Et en attendant...
Merci de nous avoir invités.
En attendant, prenez soin de vous. Allez, salut, ciao, bye, et au revoir tout le monde.